RCF.
Bonjour à tous. Bouger les yeux pour guérir l'esprit, c'est le pari de l'EMDR, méthode fondée par la psychologue américaine Francine Shapiro en 1987, qui est également auteure du livre « Des yeux pour guérir ». Cette technique, méconnue, peut offrir des résultats étonnants si elle est utilisée à bon escient, mais elle soulève aussi de nombreuses interrogations. À qui s'adresse-t-elle? Quels sont ses mécanismes? Comment la pratique-t-on? Est-elle officiellement reconnue? Et quel thérapeute choisir? Pour répondre à toutes ces interrogations, j'ai invité M. Tahar Demish, psychologue au Centre hospitalier La Chartreuse, au service de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui exerce également en libéral et qui est praticien EMDR pour les enfants, les adolescents et les adultes. Monsieur Demish, tout d'abord, que veut dire ce sigle qui nous vient de l'anglais EMDR?
Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de l'EMDR. Alors, EMDR, c'est en anglais, ça signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing, qui signifie désensibilisation et reprogrammation par mouvement oculaire. Donc, on dit reprogrammation ou bien encore retraitement, mais généralement, on utilise le terme reprogrammation.
Comme je l'ai dit en préambule, c'est Francine Shapiro qui l'a découverte. Mais de quelle façon l'a-t-elle découverte?
On dit que c'est par hasard, mais il y a quand même 20 années de recherche derrière. Donc Francine Shapiro, qui est psychologue, qui se promenait dans un parc à New York, et puis qui pensait à des soucis. Il continue sa promenade, et puis à un moment donné, quand il s'est rendu compte, quand il repense à ces mêmes soucis, il n'y avait plus la charge émotionnelle précédente. C'est comme ça qu'elle avait découvert cette méthode.
Et ensuite, elle l'a testée, je crois, pour être convaincue de sa valeur.
Effectivement. Donc, ça a commencé en 1987. Il y avait sa sœur, je crois, qui était décédée donc, suite à un cancer. Et puis, elle-même, on lui avait diagnostiqué un cancer. Et puis, les médecins lui ont dit que voilà, votre cancer est guéri, mais il y a des risques quand même de rechute. Elle s'était posé la question, elle s'était dit comment ça se fait. Je suis dans un pays à la pointe de la technologie et puis qu'on n'arrive pas à expliquer comment ça se fait que ce cancer, cette maladie peut guérir et puis mais il peut avoir des rechutes. Et c'est comme ça que donc il a commencé à s'intéresser à cette relation entre corps et esprit et que ce qui l'amène finalement donc à découvrir cette méthode ou cette approche.
Alors, c'est une méthode thérapeutique qui semble avoir été efficace, mais pouvez-vous nous dire exactement à quoi elle sert et ce qu'elle est exactement?
Au départ, donc, c'était plus pour travailler tout ce qui est traumatisme psychique. C'était au départ, quand vous me demandez tout à l'heure comment est-ce qu'elle a commencé à faire ce travail, quand elle a testé, elle avait commencé à faire ce travail sur ses collègues. Et après, elle a travaillé avec les vétérans de guerre. Et il voyait que ça marchait. Et c'est comme ça donc qu'il avait mis en place, qu'il a commencé à proposer ce travail.
Sur des différents patients, et quels sont justement les types de stress post-traumatique qui peuvent être guéris, et certains sont-ils considérés plus graves que d'autres?
Différents traumatismes. Donc on va parler, si vous voulez, des grands traumatismes et des petits traumatismes. Les grands traumatismes, ça va être, par exemple, des violences, les guerres, des attaques terroristes, de la violence familiale. Ça peut être les catastrophes naturelles. Et les petits traumatismes, ça va être des choses qu'on peut rencontrer dans la vie d'une manière plutôt, a priori, on va dire, à caractère inoffensif. Mais qui peuvent avoir des dégâts chez la personne. Ça peut être dans des familles où l'enfant qui peut être dévalorisé par ses parents. On va lui dire, tu es nul. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme toi? Ou à l'école. C'est des peut-être phrases de dévalorisation qui peuvent finalement, où l'enfant peut développer un traumatisme psychique.
Alors justement, alors en dehors d'un événement brutal et soudain, comme un attentat, un viol, un accident, dont on est sûr qu'ils vont provoquer un traumatisme, quels sont les symptômes qui peuvent faire penser qu'une personne est atteinte d'un stress post-traumatique, alors qu'elle-même ne le réalise pas?
Je vais répondre d'une manière un peu générale d'abord. Donc, les symptômes, ça peut être des flashbacks, ça peut être de l'anxiété, les attaques de panique, ça peut être des insomnies, ça peut être des cauchemars, ça peut être la dépression, ça peut être le repli sur soi. Des crises de colère gratuites. Donc, quand vous dites la personne peut ne pas réaliser comme quoi c'est un traumatisme psychique, Hein, les crises de colère gratuite, ça peut être ça, par exemple. Mmh. Hein, la personne va se dire, voilà, parce que l'autre me provoque, l'autre me cherche, donc je fais des crises. Mais ça peut être ces crises-là, peut-être dues justement à des situations traumatiques.
Alors si maintenant nous passons à la pratique, comment se déroule une séance ? Il me semble qu'il existe plusieurs phases dans le traitement.
Oui, il y a 8 phases. Il y a 8 phases. Si on fait si on parle de l'EMDR avec l'adulte, hein, c'est un protocole. Il y a 8 phases en tout. On a la première phase qui s'appelle l'histoire du patient. C'est la rencontre avec le patient. Et on essaie de voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il est là. Et à partir de là, on essaie de voir qu'est-ce qui a pu se passer dans son passé, hein, et qui a fait qu'il a développé des symptômes ou qu'il rencontre des difficultés d'une manière générale. Donc on va poser des hypothèses. Hein, on va essayer de pointer ce qu'on appelle, dans le langage en tout cas EMDR, on va parler de cibles, hein, des cibles à travailler. Et les cibles à travailler, chaque cible est un événement. Donc ça fait partie de l'histoire du patient. Après la deuxième phase, il y a ce qu'on appelle la préparation, il y a l'évaluation. Quatrième phase, qui est ce qu'on appelle la désensibilisation. Après la cinquième phase, c'est l'installation. La sixième phase, c'est ce qu'on appelle le scanner corporel. La septième phase, on termine le travail, ça s'appelle la clôture, la phase de clôture. Et puis la huitième phase, qui est toujours à la séance suivante, qu'on appelle la phase de réévaluation. Mais à partir de la quatrième phase, c'est toujours accompagné par ces mouvements oculaires qui peuvent être des tapotements aussi.
Alors, je rappelle que nous sommes toujours sur RCF, dans le cadre de l'émission Santé Plus, et que je suis avec Monsieur Tahar Demiche, qui nous explique ce que c'est exactement que l'EMDR, une méthode efficace de stimulation sensorielle. Donc, Monsieur Demiche, combien de temps faut-il pour passer d'une phase à l'autre ? Est-ce qu'il y a un temps précis ou bien est-ce que au bout d'une semaine, on pense que une phase est remplie et qu'on peut passer à une autre phase de soins?
Oui, si vous voulez le passage d'une phase à une autre, on va dire la première, la deuxième. Déjà, on fait pas de l'EMDR à la première séance. Hein, il faut à peu près 2-3 séances pour commencer le travail de l'EMDR. Hein. On s'intéresse quand même, on essaie de voir au niveau de la sécurité, est-ce que la personne est en sécurité, est-ce que la personne, est-ce qu'il y a un médecin généraliste, est-ce que la personne est entourée. Hein. Donc tout ça fait partie de la deuxième phase de la préparation. Hein. Mais quand on commence le travail, ce qu'on appelle donc à partir de la quatrième phase de la désensibilisation, d'accord. Généralement, c'est là où le gros travail est à faire, la désensibilisation. Hein. Donc là, ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut prendre plusieurs séances à la phase de désensibilisation. Mais ça m'est arrivé de recevoir des personnes et puis que cette phase, on a fait en une séance. Donc ça dépend du type de trauma, de traumatisme, hein, mm-hmm. et puis la complexité aussi des traumatismes.
Mais alors, donc, justement, si le patient vit mal l'émotion qu'il ressent, est-ce qu'il est possible qu'il arrête sa séance ? Et dans ce cas, comment vous allez poursuivre son traitement ?
Bien sûr, quand si le patient vit mal la séance, on peut faire une pause, on peut s'arrêter, on peut reprendre après, hein, et on essaie de comprendre. Mais on lui propose aussi avant de commencer ce travail, donc on protège le patient. On protège le patient. On fait ce qu'on appelle déjà la première phase, hein, donc cette phase de la deuxième phase, la préparation. On fait ce qu'on appelle le lieu sûr. Donc c'est un exercice de relaxation, hein, qui va permettre au patient déjà à la fin de la séance de retrouver un certain apaisement, une certaine tranquillité, et puis qu'il puisse rentrer chez lui tranquillement. Mmh. Et si jamais il y a des souvenirs qui reviennent, qui se déclenchent, il peut faire cet exercice tout seul. C'est pas de la relaxation, hein, mais ça s'appelle un lieu sûr. C'est vraiment quelque chose qui va protéger
Pour que le traitement soit positif, combien de séances faut-il environ?
C'est très difficile de parler de nombre de séances exactement qu'il faut pour dire que
ça dépend du traumatisme aussi.
Ça dépend de la complexité du traumatisme. Ouais. Mais généralement, on a quand même des résultats dès les premières séances. Dès les premières séances, on a des résultats positifs. Après, on va dire qu'on a vraiment un résultat à la fin du travail. Mais on a quand même, encore une fois, toujours des bons résultats dès les premières séances.
Alors, est-ce que les enfants, puisqu'on a dit aussi que vous étiez thérapeute pour ces enfants-là, à partir de quel âge pouvez-vous leur faire suivre cette méthode ? Est-ce que vous adaptez la méthode à l'âge, à la capacité gestuelle de l'enfant ?
Oui, effectivement. Ce qui est génial, c'est qu'on peut commencer l'EMDR à partir de l'âge de zéro, hein, donc à la naissance. Qu'on peut le faire jusqu'à la fin de la vie de la personne, hein, donc il n'y a pas d'âge. Mais effectivement, avec un enfant, on ne va pas utiliser le protocole adulte. Hein, donc on va adopter justement ce protocole. Hein. Si c'est un bébé, on va passer, si vous voulez, par l'activité corticale de la mère, c'est par le cerveau de la mère. Hein. Et à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans, on va travailler avec l'enfant. Mais toujours avec ce protocole adapté à l'enfant, hein, en fonction de l'âge, effectivement.
Alors, est-ce que vous avez que des résultats positifs ou est-ce que vous avez aussi des échecs? Et si vous avez des échecs, à quoi sont-ils dus?
On a beaucoup de résultats positifs. Hein, en tout cas, si je parle de ma pratique ou si je parle de ce que j'ai pu, des témoignages des collègues, hein, donc moi, dans ma pratique, il y a beaucoup de résultats positifs. Hein. J'ai envie de dire peut-être à 80% facilement de résultats positifs. Mais parfois, ça peut ne pas marcher, effectivement. Je le dis toujours, le thérapeute EMDR, généralement, il va dire aux patients comme quoi ça peut ne pas marcher. Hein. On ne peut pas assurer des résultats à 100%. Hein. Ça peut ne pas marcher. Mais généralement, ça marche. Ça marche très très bien avec les enfants. Les enfants, ils répondent vraiment d'une manière rapide. Ouais, et ça marche très très bien. Ça marche très très bien aussi avec les adultes. D'accord. Mm-hmm. Avec les ados, ça peut être un peu parfois compliqué. Ça marche, mais ça peut être compliqué avec certains, notamment quand il y a par exemple quand il y a de la violence familiale, quand ça se passe mal dans la famille, puis que l'enfant, le jeune, on le voit et puis il retourne dans sa famille. Il est dépendant de sa famille. Et du coup, donc, ça n'aide pas ce travail.
Alors, Monsieur Demiche, malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Mais avant de la clore, je voudrais que vous précisiez à nos auditeurs où ils peuvent vous joindre afin de profiter de cette thérapie. Je pense qu'ils peuvent vous joindre au centre hospitalier.
Au centre hospitalier où je travaille, c'est un peu, si vous voulez, le travail avec les enfants, les jeunes, ou les enfants, ou les parents qu'on reçoit dans le service. Hein, donc, du coup, c'est des orientations de médecin à médecin. Quand ils rentrent dans nos services en pédopsychiatrie. Hein. Après, je pratique aussi, bien sûr, en libéral.
En libéral.
Hein, ouais. Et là, je peux être joignable. Donc,
D'accord. Mais on peut passer par le service pédopsychiatrie pour avoir vos coordonnées ou bien vos téléphones.
Bien sûr, ouais, c'est possible aussi. Ouais.
Je vais donc terminer. Je voudrais préciser simplement en terminant que le MDR est recommandé par la Haute Autorité de Santé et par l'Institut National de Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, ainsi que par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est considéré comme une thérapie de choix des troubles de ces stress post-traumatiques. Donc je vous remercie, Monsieur Demiche, de nous avoir fait connaître cette thérapie méconnue, qui est le MDR, qui ne peut ni effacer ni changer le passé, mais permet qu'il ne fasse plus mal. Merci.
Merci à vous.